France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série sur les pouvoirs du silence, tournons-nous ce matin vers ces situations sociales où une chape de plomb pèse sur la parole, interdit de protester, silence docile, apparemment docile. Rien n'est possible dans certaines situations sociales, ni protester, ni partir, ni contredire un époux, ni le quitter, ni affirmer qu'on n'est pas d'accord avec un employeur, ni démissionner. Sur le papier seulement, les options existent. Dans la réalité, il y a l'angoisse de perdre des ressources financières essentielles, il y a la peur de perdre l'amour, il y a beaucoup d'autres choses. C'est de ce silence-là que nous allons parler ce matin, un silence qui, pour parler comme le théoricien du XXe siècle Alfred Hirschman, semble endosser la loyauté, loyalty, on pourrait dire aussi consentir à la situation, mais à vrai dire, c'est plutôt souvent que la défection, exit en anglais, n'est pas voulue, pas envisageable, pas mûre, de même pour la protestation, voice. Alors on reste comme ça, dans cette docilité apparente, muette, dominée. Il faut dire que certaines sortes de domination fonctionnent avec une ruse terrible, elles font douter de tout et de soi-même. En anglais, il y a un mot souvent utilisé, en référence à un film de George Cukor de 1944, Gaslight. On gaslight quelqu'un en lui faisant croire que c'est lui ou elle qui est le problème. La philosophe Hélène Frappa vient de consacrer à ce processus retors un essai plein de vivacité. Elle fait partie de nos invités ce matin. Bonjour Hélène Frappa.
Bonjour.
Agrégée de philosophie, vous écrivez des choses très diverses, des romans, des essais. Vous faites aussi des traductions de l'anglais au français. Vous venez de faire paraître donc Gaslighting, ou l'art de faire taire les femmes, aux éditions L'Observatoire. Bonjour Alizée Delpierre.
Bonjour.
Vous êtes sociologue chargée de recherche au CNRS, spécialiste du travail dit domestique, des relations qui s'y déploient. Aux éditions La Découverte, vous avez publié Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes, et un livre dans la collection Repères intitulé « Les domesticités ». Enfin, bonjour Cyril Ferraton.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex depuis Montpellier, merci aux équipes de France Bleu Hérault. Vous enseignez les sciences économiques à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Vous connaissez très bien l'œuvre d'Alfred Hirschman, hélas souvent méconnu, j'espère que nous allons un peu y remédier. Je l'évoquais d'entrée de jeu, notamment son livre paru aux États-Unis en 1970, « Exit ». Voice and Loyalty, traduit en français chez Fayard en 1995 sous le titre « Défection et prise de parole ». C'est un ouvrage qui, me semble-t-il, offre de stimulants outils conceptuels pour réfléchir à notre sujet de ce matin.
J'ai eu le ministère de l'Industrie parce que Pierre Dreyfus était malade. Et là, les difficultés ont vraiment commencé parce que je me suis heurté, je dirais, à la logique qui était celle de Jacques Delors et de Pierre Mauroy, qui était une autre logique, qui allait nous acheminer vers un compromis avec ce qu'il faut bien appeler le néolibéralisme triomphant. Et François Mitterrand m'avait en quelque sorte désavoué par un petit communiqué de Jacques Attali à la sortie du Conseil des ministres en février. Et j'avais une conférence de presse qui tombait l'après-midi, et pour écarter les questions inopportunes, j'avais lâché cette phrase, un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Et j'avais d'ailleurs rédigé ma lettre de démission deux ou trois jours après.
C'était Jean-Pierre Chevènement, vous l'aurez peut-être reconnu, sur France Culture en 2011. Il racontait l'origine de cette phrase qu'on lui attribue et qui a donc vraiment été prononcée. Un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. C'est donc en 1983, au bord de la démission, qu'il l'a prononcé. J'ai pensé, Cyril Ferraton, que c'était un exemple assez pédagogique pour évoquer les concepts d'Alfred Hirschman. Exemple où parler est absolument impossible et passe pour tout à fait déloyal. Loyalty, comme dirait Hirschman, exclut voice. Si on veut voice, il faut exit. Est-ce que ça vous convient comme premier exemple pédagogique, Cyril Ferraton ?
Oui, oui, ça me convient. Après, l'ouvrage d'Albert Eichmann, au départ, est consacré à l'économie, hein, aux organisations économiques, mais effectivement, après, ça a été étendu à beaucoup d'autres types d'organisations, les partis politiques, l'État, voilà, un ensemble d'organisations possibles. Et concernant, par contre, juste une petite correction, hein, c'est Albert Eichmann et non pas Alfred
Eichmann. Ah oui,
Eichmann.
Je sais pourquoi.
C'est pas grave.
Oui, bizarre, de ma part. Je voudrais juste que vous précisiez, s'il vous plaît, Cyril Ferraton, les différentes sortes de loyauté, loyalty, qui existent. Je présume que pour Eichmann, certaines autorisent plus de voice, c'est-à-dire n'exigent pas toujours autant de silence.
Oui, alors, lors de la publication donc de l'ouvrage en 1970, en fait, ce qu'il développe surtout, c'est exit voice, hein, défection et prise de parole. Et la loyauté, c'est quelque chose qui empêche effectivement la prise de parole, mais on n'est pas loyal de manière indéfinie dès lors que la qualité ou que les rapports sont trop inégalitaires. Donc, ce qu'il souligne, c'est que la loyauté peut, oui, être transitoire, mais elle n'est jamais illimitée, et qu'à un moment ou un autre, il y aura soit défection, soit prise de parole. Mais ce qu'il juge beaucoup plus positivement, c'est la prise de parole.
Et il suggère aussi, vous me direz si je me trompe, que certaines organisations, lorsqu'elles tolèrent de la protestation, du commentaire, du voice, finalement sont plus fortes, parce qu'elles permettent aux gens de rester, de dire, d'améliorer, voire de réformer l'organisation.
Oui, tout à fait. Il faut envisager voice, hein, c'est un périmètre très très large, hein. Ça va de la communication, de la transmission d'informations, tout comme ça peut déboucher sur l'action collective, voire sur des formes insurrectionnelles ou révolutionnaires, comme ça s'est produit, et donc, mais de manière pacifique, en République démocratique allemande, donc au moment de la chute du mur de Berlin, puisque c'est un des exemples, hein, qu'il a beaucoup commenté cette chute du mur de Berlin, lui-même étant allemand, enfin d'origine allemande. Et oui, le voice, hein, la prise de parole, c'est une palette de possibilités de transmission d'informations, ça peut être aussi des rapports de force, hein, donc voilà, il n'a jamais vraiment précisé ce que cela recoupait, même si ça renvoyait donc à des formes de transmission d'informations, et qu'il soulignait qu'une organisation, bien sûr, dans le cadre de cette prise de parole, allait toujours vers une amélioration de son fonctionnement, puisque le voice ou la défection, hein, se déclenche dès lors qu'il y a une dégradation de quelque chose. Et au départ, c'est la dégradation de la qualité, hein, d'un service public, par exemple, ou d'un bien, hein, que l'organisation vend. Et donc, la prise de parole permet normalement d'améliorer cette qualité du service public, du service social ou du bien vendu par l'organisation.
Alors, bien sûr, comme il le dit lui-même, il s'agit de problèmes de riches. C'est l'expression qu'il va employer dans un texte très, très bref qu'on va lire, parce qu'il y a des tas d'organisations où, en fait, si je puis dire, je ne sais même pas si ce sont des organisations, on ne peut pas partir comme ça si voice est interdit. Enfin, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas partir d'un boulot où on est dominé. Si on a un couple extrêmement dominateur, on n'a plus de voice, on n'a plus d'exit, on est longtemps assez perdu. Je vous propose d'écouter cette réflexion donc d'Albert Eichmann dans son fameux livre. Là, en l'occurrence, c'est dans un autre texte, mais c'est à propos de Exit, Voice and Loyalty.
Les difficultés de combiner défection et prise de parole de façon optimale sont en un certain sens des problèmes de riches. Elles ont trait à des situations et des sociétés où les deux réactions existent, mais où une différence de proportion entre les deux serait préférable. L'histoire connaît beaucoup plus d'exemples où la prise de parole et la défection n'existaient pratiquement ni l'une ni l'autre, sans pour autant que les hommes n'aient eu main sujet de mécontentement ou de malheur. Une des tâches importantes des sciences sociales consiste évidemment à se pencher sur l'inaction et le passage à l'activisme, aussi bien que la trajectoire inverse.
Alizée Delpierre, vous êtes sociologue. Il y a un petit clin d'œil aux sciences sociales à la fin de cet extrait d'Albert Eichmann. Vous travaillez sur des situations d'emploi où il y a de la maltraitance, en tout cas il y a de la domination, c'est ce que vous expliquez. Et souvent, les employés ne peuvent pas protester, pas de voice possible. Et quant à leur dire « t'as qu'à partir », c'est un peu facile. Ce sont des individus qui n'ont pas beaucoup de choix dans leur vie, qui parfois n'ont pas de papier. Alors, parlez-nous un peu de cette difficulté que vous avez étudiée de près et dans quel milieu ?
Alors oui, tout à fait. Concernant le travail domestique sur lequel j'ai concentré une partie de mes recherches, il y a en fait tout un tas de facteurs qui inhibent les prises de parole des domestiques et leur sortie de l'emploi. Alors ces facteurs, ils peuvent être multiples, ils peuvent être liés à la peur en fait que l'employeur se venge. Cette peur, elle est d'autant plus importante lorsque l'employeur fait partie des sphères dominantes de la société. Hein. Notamment, j'avais fait une enquête auprès des domestiques des grandes fortunes, hein, qui sont des employeurs qui cumulent tous les capitaux et donc qui exercent aussi une certaine domination à la fois symbolique et économique sur les domestiques. Donc il y a la peur de la vengeance de l'employeur, il y a la peur aussi de perdre en fait tout, parce que dans une certaine frange de la domesticité à temps plein, les domestiques dorment chez leur patron. Et donc en fait, si ils élèvent la voix et qu'ils se font licencier, ils perdent un travail, mais ils perdent aussi un logement. Donc ça, c'est très compliqué. Néanmoins, en fait, ce qui est quand même intéressant et ce qui nuance ce que dit en fait Albert Hirschman et ce qu'on pourrait penser des milieux populaires ou des travailleurs de façon générale qui sont dans des situations soit de travail domestique où il y a énormément d'emprise, soit des situations d'exploitation au travail comme sur lesquelles je suis en train de travailler actuellement, parce qu'actuellement je travaille sur la traite des êtres humains dans plein de secteurs professionnels. Et en fait, le point commun à ces individus, c'est que la voice est impossible, mais par contre, il y a de l'exit. Il y a de l'exit. Donc, on est quand même pas loin de la situation du ministre qu'on a entendu.
Alors, les ministres sont dans les problèmes de riches, comme disait.
Voilà. En fait, finalement, c'est pas que des problèmes de riches. Pourquoi? Parce que la négociation, en fait, est impossible pour des questions de loyauté dans la domesticité, pour des questions aussi de dette, en fait, dans le cas de traite des êtres humains. Ce sont des individus qui sont endettés envers leur exploiteur pour tout un tas de raisons. Hein. L'exploiteur a pu, par exemple, leur payer leur arrivée en France, et donc en fait le travailleur contracte une dette et donc se sent redevable de cet employeur qui, par ailleurs, lui donne un hébergement aussi indigne qu'il soit. Il est quand même hébergé, donc du coup il n'y a pas de possibilité de négocier. Et souvent ce sont des personnes, vous l'avez dit, en fait sans papier aussi, directement issues de pays étrangers, qui maîtrisent pas du tout le droit du travail en fait, donc ils ne savent même pas quoi négocier, ce qu'ils ont le droit de négocier. Mais par contre, lorsque la situation devient intolérable, et alors c'est très intéressant parce qu'en étudiant, qu'est-ce qui fait qu'on passe justement de l'inaction à l'activisme ? Ouais. Alors là, c'est pas de l'activisme collectif, mais c'est plutôt de l'exit. Eh ben, c'est qu'il y a une sorte de ligne rouge qui va être atteinte et qui souvent va être la ligne rouge du passage à la violence, en fait.
Alors pour le coup, je suis pas sûre que ce soit exit l'activisme. Je crois qu'au contraire, enfin peut-être que je me trompe, c'est Hirschman dit... L'activisme, ce qui est probablement une assez mauvaise traduction, je me permets de le dire, c'est justement la protestation avec certains passages à l'acte. C'est plutôt dans l'ordre du voice.
Du voice.
À quel moment on peut y aller, protester et créer peut-être un mouvement collectif.
Ouais. Bah alors justement, dans les situations que j'étudie, il n'y a pas de mouvement collectif.
Oui,
aussi bien chez les travailleurs domestiques que chez les personnes en situation de traite des êtres humains. Mais par contre, il y a de l'exit. Il n'y a pas de collectif. L'exit, en général, il est assez individuel.
Hein, et donc, il faut quand même dire que les êtres humains dominés n'aiment pas, pour beaucoup d'entre eux, la domination. On dit souvent qu'il y a de la docilité parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il y a quand même, comme disait la Boétie, un germe naturel de liberté chez la plupart d'entre nous. Et même si c'est horrible, si c'est dur, si on n'a pas d'argent, il y a un niveau d'humiliation que quand même beaucoup de gens n'arrivent pas à supporter, et ils s'en vont, même si c'est dur de s'en aller. Parce que, voilà.
Exactement. Certaines personnes que j'ai rencontrées ou dont j'ai étudié les récits, en fait... prennent le risque en fait de finir à la rue, mais plutôt il vaut mieux être à la rue finalement pour certains que de rester sous l'emprise d'un exploiteur qui peut, d'un patron en fait qui ne nous paye pas, qui ne nous donne pas à manger et qui nous frappe, qui nous donne des coups, voire qui nous viole pour beaucoup de femmes. Et donc en fait ça, ce sont des lignes rouges en fait que les individus ne vont pas, la goutte d'eau en quelque sorte qui va faire déborder le vase. Et alors c'est assez intéressant parce que beaucoup de ces personnes ont aussi une trajectoire de vie et migratoire très difficile, jalonnée d'obstacles, jalonnée aussi de violences, de situations. Finalement, c'est des personnes qui n'ont jamais connu des situations d'emploi sereines, qui sont nées dans des familles très pauvres, etc. Et donc, en fait, lorsqu'ils sont en exploitation, ils endossent tout ce qu'ils subissent comme dans une continuité de ce qu'ils ont vécu auparavant. Ce qui fait que l'exit est arrive tardivement,
oui,
en fait.
Mais ça finit.
Parce que, voilà.
On
mais
l'espère
en fait,
pour eux. Ça
voilà.
Finit
mais quand même, il y a quand même un moment ouais. où ce n'est plus possible.
Bon, alors là, c'est un peu étrange. On vient de parler d'un ministre, Jean-Pierre Chevènement. On a parlé d'organisation dans le monde du travail. Là, de situations très particulières avec des dominations, des exploitations d'individus assez extrêmes. On a parlé même de la traite de certaines personnes. Et là, maintenant, on va parler du couple. Alors, ça peut paraître très, très bizarre, mais Hirschman fait partie de ces sociologues, enfin, il n'est pas officiellement sociologue, mais enfin, un théoricien, qui, comme d'autres, par exemple comme Georg Simmel, pense que, eh bien oui, il faut parler du mariage, du couple, comme une organisation qui a des logiques. Simmel disait, c'est bien d'avoir du conflit dans les couples, ça veut dire qu'on s'exprime et ces mariages-là marchent parfois mieux que d'autres. Hirschman, on pourrait dire, il faut du voice aussi dans le couple. Malheureusement, Hélène Frappa, ce n'est pas toujours possible et au fond, vous réfléchissez au silence dominateur dans le couple.
Oui, finalement, la question, enfin, toutes ces questions me paraissent reliées, absolument reliées, organiquement, je dirais, reliées. Par la norme, la question de la norme qu'on retrouve à chaque fois. Moi, j'étais frappée, je m'attendais pas du tout à entendre l'archive de Jean-Pierre Chevènement. J'ai mis
bon là. Où elle va?
Mais c'est très intéressant parce que si on voit historiquement, on entend au début un ministre qui nous rappelle, enfin, moi, pour ma génération, des souvenirs, voilà, d'un moment historique qui a été assez fort quand même pour en tout cas l'histoire de la gauche française. Et puis là, et j'ai tout de suite fait le lien quand j'ai su que vous veniez entendu parler de votre livre avec notre ministre actuel de l'Éducation nationale qui s'est illustré uniquement professionnellement pour donner des conseils aux domestiques, alors pas avec l'ironie d'un Swift, pour être docile. Non, voilà, c'est la seule chose qu'elle a fait, donner des conseils aux patrons expatriés. Moi, j'ai lu ce qu'elle a écrit, c'est assez c'est intéressant, j'imagine que vous l'avez lu aussi. C'est-à-dire, apprenez à vous taire, apprenez à être docile. Donc, en termes, on voit bien que tout ça est connecté. Il s'agit d'une ministre de l'Éducation nationale. Dieu sait si c'est important dans un État démocratique, cette question de l'éducation. Donc, toutes ces questions-là ne sont pas du tout anecdotiques, à mon avis. Et c'est vrai que dans... Alors, voice, oui, c'est un terme très important. Mmh. Moi, c'est celui... J'en fais la généalogie, disons, dans mon livre. Mais finalement, pour moi, la question, c'est la question de la conversation. Alors, vous citiez, j'étais venue il y a quelques années, enfin, ou je sais plus moi, parler d'Adorno, d'un texte que j'avais traduit d'Adorno, où effectivement, la question de l'État était aussi reliée à celle de la famille, à celle du couple. Et il étudiait, alors, sa généalogie de la personnalité autoritaire aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, comment finalement tous ces mécanismes, disons, fascistes, enfin, ou de fascisation, pour employer un terme un peu plus disons, vague ou un processus, disons, était aussi relié à la structure familiale telle qu'elle est décrite dans une citation que je fais dans mon livre par Hannah Arendt, comme une prison. C'est le mot qu'elle emploie. Voilà, donc la question, c'est celle-là. Quelle est cette norme, originellement, qui fait que certains individus, dans ce qui devrait être, selon, disons, une utopie, une conversation libre entre deux êtres humains qui seraient alors de manière normée un homme et une femme, c'est pour ça que John Milton, le poète, a protesté d'ailleurs contre le mariage chrétien, a demandé au roi, donc il y a quelques siècles, la possibilité du divorce avec cet argument que ce n'était pas une conversation à part égale entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qui fait qu'un des deux membres de cette soi-disant conversation est privé de voix? Et c'est vrai que je suis remontée assez loin, notamment aux textes d'Aristote, qui sont très fondateurs de ce point de vue-là. J'ai étudié cette généalogie. Qu'est-ce qui fait que les femmes ont été à un moment privées? Alors, selon moi, par des arguments parfaitement farfelus. Enfin, je pense que les arguments d'Aristote sur ce point sont tout à fait farfelus, et notamment son analogie qui fait qu'il compare donc il va faire intervenir l'image des métiers à tisser qui serait analogue aux testicules qui équilibre la voix masculine, et à partir de cette analogie assez fantaisiste, il en déduit Et bon, Dieu sait si Aristote connaît l'art du raisonnement. Il en déduit que les femmes vont être, qui ont une voix donc aiguë parce que leur voix n'est pas équilibrée par les testicules, qu'elles n'ont pas de suprématie. Donc nous passons d'une, je dirais, disqualification sonore de la voix aiguë de la femme et des homosexuels à une discrimination dans le champ politique qui fait, et qui va être très concrète, hein, il va y avoir des lois en Grèce notamment, et qui vont continuer ensuite à être appliquées assez longtemps, qui vont priver les femmes de voix dans le champ politique. Or, le film de Cukor, et c'est intéressant parce que Albert Hirschman parle de problème de riches, là on est vraiment dans un problème de riches, c'est-à-dire dans le film de Cukor, on est chez les riches, mais ce qui est génial, c'est que c'est la femme qui est riche. Et c'est d'autant plus intéressant que ça veut dire que c'est une femme, l'héroïne du film de Gaslight, qui a les moyens économiques de sortir, pour reprendre le terme d'exit, d'une situation de, alors je dirais plus que de domination, de déshumanisation, qui va peu à peu la priver de ce qui fait, à mon avis, d'un être humain, fondamentalement un être humain, c'est-à-dire le langage. Elle va être peu à peu, enfin tout ce qui fait le langage, l'articulation, elle va se mettre à bégayer, elle ne pourra plus parler. Enfin, non seulement le contenu de ce qu'elle dira va être disqualifié, mais le son même, enfin, sa voix va finir par littéralement s'éteindre. Et c'est une chanteuse très importante dans l'histoire, et elle est la nièce d'une très grande cantatrice qui a été étranglée, donc assassinée par cet homme, donc qui est son époux. Et cette question nous ramène évidemment directement, pour la situer de manière contemporaine, à ce qu'on appelle aujourd'hui des féminicides, qui sont systématiquement précédés, à chaque fois l'auteur, j'aime pas beaucoup ce mot, mais disons l'assassin dit « j'ai voulu la faire taire ». Donc ça c'est très important en fait dans cette histoire de la voix.
Alors, donc on va en effet traiter maintenant du silence des femmes dans le couple, même si nous ferons des liens peut-être avec d'autres formes, d'autres manières de faire taire des individus. Et effectivement, Gaslight est un film qui est une référence courante aux États-Unis. Le film de George Cukor de 1944, j'ai pu constater en effet que souvent dans des conversations aux États-Unis, qu'on veut dire quelqu'un est privé de parole, et chaque fois qu'il ou elle d'ailleurs dit quelque chose, on dit mais est complètement fou, elle est complètement folle, elle raconte n'importe quoi. Ça, cet acte qui disqualifie est souvent nommé gaslighté, on gaslight. Et ça vient du film de Cukor, dont je vous remercie, Hélène Frappa, d'avoir fait le pitch, comme on dit dans les métiers de radio ou de télévision, enfin d'avoir expliqué qu'il s'agit d'un homme et d'une femme dans des situations particulières. Écoutez comment la femme est finalement se croit elle-même totalement folle, et quand son époux n'est pas là, eh bien se vit comme parlant trop et disant n'importe quoi. Écoutez.
Excusez-moi, j'ai vécu très seule dans cette maison ces derniers mois. J'ai tort de vous laisser entrer, je n'ai pas le droit. J'ai bien peur de...
D'être folle, c'est cela que vous avez peur? Mais je viens vous prouver qu'il n'en est rien. Et si vous répondez à quelques questions, vous m'y aiderez. Dites-moi, où est votre mari?
Il a loué un studio, il y va chaque soir composer. Il ne travaille guère ici. Il dit qu'il lui faut du silence.
Dites-moi, à l'heure actuelle, y a-t-il quelqu'un d'autre ici, excepté nous et Elisabeth?
Non, pourquoi?
Parce que le gaz vient de baisser.
Vous l'avez vu aussi?
Mais oui.
Oh, ça existe donc réellement. Je croyais à des hallucinations.
On a dû allumer un bec à un autre étage.
Non. Longtemps, je l'ai cru, mais chaque soir, j'ai parcouru la maison en tous sens et les autres becs étaient tous éteints. Que je suis contente de dire cela, enfin. C'est fort étrange, chaque fois que mon mari part le soir.
Le gaz décroît?
Oui.
Et ensuite?
Ensuite, je crois entendre des choses au-dessus de ma chambre.
Qu'est-ce là, les bruits?
Oui. Mais qui est là?
Madame Anton, vous vous en doutez. Vous le savez depuis longtemps.
Non. Par où irait-il?
Derrière ces maisons, il y a une ruelle. Chaque soir, il passe par une porte de service, celle du numéro 5. Et il suit le toit jusqu'au 9.
Pourquoi?
Hélène Frappa, elle n'est pas tout à fait folle. Le gaz, enfin, on dit le gaz, les lumières, en fait. Les lumières déclinent. Son mari lui dit toute la journée qu'elle se l'imagine, et soudain, quelqu'un l'entend. Vous pourriez un peu expliquer cette histoire de lumière, parce que, en même temps, c'est tellement cinématographique.
Oui, et en effet, je pense que ce qui fait de ce film, hein, qui a été élu par la Bibliothèque du Congrès états-unienne comme une des œuvres qui a le plus marqué l'histoire de l'humanité, hein, je cite, il y a quelques années. Donc, c'est pas seulement un chef-d'œuvre dont Georges Cukor est coutumier, hein, il en a fait beaucoup, mais c'est vraiment un film où il y a eu un avant et un après. Alors, à commencer par la société états-unienne, c'est-à-dire dès 1948, quand ce film, donc 4 ans après la sortie du film de Georges Cukor, des femmes sont allées trouver donc, à un moment très réactionnaire de la société états-unienne où il était difficile de divorcer, où les femmes étaient plutôt encouragées à rester chez elles, à se marier, à arrêter de travailler, etc. Elles se sont réclamées de ce film auprès d'avocats qui ont plaidé le, je cite, « gaslight treatment » pour plaider le divorce. Donc, c'est-à-dire le film les a vues littéralement. Sans doute, comme vous le dites très justement, il est question de lumière.
Et oui.
Il est question de lumière, et moi j'ai pris ce terme très très au sérieux, enfin très comment dire, dans un sens, moi je dis européen. Pourquoi européen? Parce que qui nous ramène au sens des lumières, de la philosophie des lumières européennes, c'est-à-dire dans cette idée, ce moment 1944, hein, donc c'est un moment où Georges Cukor, qui est né à New York, mais enfin dont la famille est c'est un juif hongrois, sa famille est en Europe. Il y a un pressentiment pour moi dans ce film, et c'est une des hypothèses de mon livre, un pressentiment très fort à travers ces gaz, hein, qui sont là et qui ne cessent d'obscurcir à la fois la maison et la raison. Donc la maison, lui, manipule en fait la lumière, hein, pour la baisser, la monter.
Il la manipule pour qu'elle... Et il lui dit quand elle dit « Oh là là, les lumières déclinent voilà. », il dit « Mais pas du tout, c'est dans ta tête ». Et
voilà.
il l'humilie de cette façon.
Il l'humilie, et c'est aussi, ça passe par une négation, c'est-à-dire sa montre, et c'est pour moi aussi très important, parce que je parle aussi, ensuite, ça m'amène à parler du négationnisme dans le livre, c'est le lien entre la destruction et la négation. Un lien d'ailleurs que Hannah Arendt avait fait dans son livre sur les violences, sur les mensonges, enfin le lien entre la violence et le mensonge dans les mensonges du Watergate, mais le fait que il y a toujours, comment dire, toute forme de destruction entraîne aussi la négation de cette destruction. C'est-à-dire, il détruit sa raison et en même temps, il dit, mais quelle lumière, mais tu as beaucoup d'imagination, etc. Donc, toute la question, c'est non pas pourquoi cette femme est tellement crédule. Après tout, elle est très intelligente, elle est brillante, elle est indépendante économiquement, beaucoup plus que son mari.
C'est Ingrid Bergman qui l'incarne.
Elle est sublime, c'est Ingrid Bergman. Elle est beaucoup plus grande, on est au cinéma, donc, que Charles
que
Boyer.
Lui, ouais.
Voilà. Donc, elle est en position, disons, apparemment de force. Lui est un petit accompagnateur au piano alors qu'elle se prépare à être cantatrice comme sa tante. Donc, qu'est-ce qui fait que, finalement... Enfin, ce n'est pas la crédulité, le sujet. Le sujet, c'est la crédibilité. Qu'est-ce qui fait que la crédibilité de la parole de cette femme est tellement faible, hein, dès le départ, qu'elle va pouvoir consentir à accepter ce scénario assez idiot, en réalité, mais cependant très familier, qui est... Ma pauvre fille, je te trouve un peu hystérique, t'as beaucoup d'imagination, t'as encore perdu un objet. Alors, l'objet qu'elle est censée avoir perdu, c'est lui-même qui l'a dissimulé.
C'est une broche qu'il dit, qu'il lui montre, il dit, tu vois, je la mets dans ton sac. Il lui parle d'ailleurs au passage comme un enfant.
Comme un enfant un peu malade.
Oui. Ouais, et puis, en fait, il ne la met pas dans le sac, il la dissimule. Et donc, après, elle se retrouve, dites-vous, c'est votre analyse, là, dans un double bind au sens de Gregory Bateson, qui a réfléchi à ce phénomène psychique dans les années d'après-guerre aussi. Et là, elle n'a le choix que de lui dire « j'ai perdu la broche qui... » et donc c'est une catastrophe, ou bien « il n'y a pas la broche, mais je ne sais pas pourquoi » et c'est une catastrophe aussi, elle va passer pour une folle. Quoi.
Voilà, les
donc,
deux.
Donc ouais. elle peut rien dire. Quoi.
Et le double bind le plus... crucial, vous dites elle peut rien dire justement, c'est porte sur le langage. C'est-à-dire, il y a une scène très frappante dans le film, il lui interdit toute visite, il l'isole. Hein, c'est un mécanisme c'est une manipulation, le gaslighting. C'est vrai que c'est un mot en fait qui est né du film de Cukor et dont moi j'ai voulu faire un concept, ce qui n'était pas encore le cas, en unifiant l'ensemble des usages qu'il avait, notamment aux États-Unis, usage psychologique, usage politique avec Trump, la première élection de Trump, c'est là où le mot a explosé aux États-Unis, la question de la manipulation de la vérité, voire de la destruction de la vérité. Et j'ai voulu voir, en fait, s'il était possible d'unifier ces usages pour essayer de voir à quelles conditions, finalement, ce concept de gaslighting nous permettait de passer de cette violence domestique qui est celle que subit cette femme dans le film, et qui est pour moi une question, je dirais, collective. C'est-à-dire, vous disiez bien sûr qu'une femme peut gaslighter. La question, elle est collective. C'est en quoi les femmes, dans cette histoire-là, incarnent une sorte de peuple qui a été, à qui la voix a été retirée. Donc, comment passer cette violence conjugale à une violence politique qui est beaucoup plus large et qui, bon, je cite le contexte du film, commence dès 1944. Effectivement, qui est très importante dans l'extrait qu'on a entendu et je pense qui rejoint vos travaux, c'est comment on s'en sort, pour reprendre le terme de Dirschmann, il faut un témoin. C'est crucial. C'est-à-dire, il faut la présence d'un témoin qui va attester. Alors, c'est un témoin.
Qu'on n'est pas fou.
Voilà. Alors, ça peut passer aussi par l'écriture. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le texte génial de Klemperer sur la langue du Troisième Reich, ce livre extraordinaire sur la destruction du langage par le nazisme, la dictature nazie, a commencé comme un journal intime. A commencé par comme un journal où il s'agissait de noter pour attester que la réalité peu à peu était décrite. Bon, c'est le cas dans 1984 aussi où il y a un journal. C'est le cas d'associations de défense des femmes victimes de violences conjugales qui disent prenez un journal, notez la réalité. Mais dans le film, ça passe par deux témoins, une vieille dame et un policier qui va faire son travail en l'occurrence et rouvrir une enquête. Et ça, c'est crucial en fait.
Alors, ça peut paraître un peu problématique de mêler la question du traitement des femmes dans le mariage à la question du totalitarisme, parce que c'est ça que vous...
Bon. Mais
il est vrai, en tout cas, que pour ce qui est du film de Cukor, peut-être qu'au-delà du cas d'un couple, alors nous, aujourd'hui, ça nous intéresse beaucoup, parce qu'on se dit, tiens, ça nous fait réfléchir au mariage, là. Mais lui, c'est vrai qu'il avait en tête... Ben, la guerre.
Mon hypothèse.
En 1944.
C'est mon interprétation.
Donc, en tout cas, peut-être même qu'il parle plus, lui, Cukor.
C'est ce que je pense.
De la guerre et de l'ennemi nazi, stalinien, parce que bon, il y a quand même eu des alliances sombres entre les deux, que des femmes. Je rappelle aussi que la pièce de théâtre Gaslight a été écrite en 1938 par Patrick Hamilton. C'est ça qui a inspiré le film. Elle a été jouée sur Broadway, adaptée d'abord dans un film anglais en 1940. Dickinson l'a adaptée, Thorold Dickinson, et puis c'est devenu une pièce sur Broadway intitulée Angel Street. Donc la question de la guerre et de comment on empêche dans certains régimes les gens de voir ce qu'ils voient, c'est la question centrale. Alors je pense aussi que chez Albert Hirschman, la guerre est un enjeu très important. Est-ce que vous pourriez, Cyril Ferraton, nous rappeler qui était Hirschman? Qu'il naît en 1915 à Berlin. Ça veut dire qu'il a 20 ans, 25 ans, 30 ans, en pleine tourmente européenne. Et ça, le tourmente, c'est le moins qu'on puisse dire. Pouvez-vous nous donner quelques indications?
Oui. Quelques repères donc biographiques. Hirschman donc est né à Berlin. Il est allemand. Il est issu d'une famille relativement aisée, juive, de la République de Weimar. Et donc il a dû fuir l'Allemagne et passer ses études à Paris, en Italie également. Mais il s'est engagé. Et effectivement, en vous entendant, il y a quand même un mot qui est indissociable du voice. C'est l'engagement, puisque lui, il n'a cessé de s'engager dans la première partie de sa vie. Donc, il s'est engagé du côté des Républicains en Espagne. Il a participé pendant quelques semaines à la guerre en Espagne. Il s'est engagé aussi à la lutte contre le fascisme en Italie, puisqu'il avait des parents, sa sœur qui était en Italie mariée à un Italien qui luttait contre le fascisme. Il a participé de manière silencieuse parce qu'il communiquait des informations de Paris en Italie et donc pour la lutte contre l'avènement de Mussolini. Il s'est engagé au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française. Il a dû fuir. Il a participé donc au comité Variant Free qui était à Marseille et qui a permis donc de d'exfiltrer entre guillemets un grand nombre d'artistes intellectuels d'origine allemande ou pas, hein. Il y a même des Français qui ont pu bénéficier de cette action collective menée à Marseille par Varian Frié et épaulée pendant un temps par plusieurs personnes dont Hirschmann. Et après il a dû fuir parce qu'il était poursuivi par la police française. Et il s'est exilé aux États-Unis et il s'est engagé donc dans l'armée américaine au moment donc de la fin de la seconde, enfin un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est revenu en Italie donc en tant qu'interprète et donc agent militaire américain. Donc l'engagement est effectivement indissociable de la carrière de Hirschmann. Ça, c'est la première partie de sa vie. Hein,
et après, il va aller aux États-Unis. Il sera une figure importante de l'université de Columbia, puis de celle de Harvard, un économiste majeur. Et puis, il a connu le macartisme aussi, qui est un moment important de l'histoire américaine où on a voulu dénoncer des gens sans beaucoup de preuves et quand ils se défendaient, on leur disait qu'ils étaient fous. Hein, c'est un petit peu, on retrouve ce mécanisme, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Alors simplement, il s'est engagé quand il était jeune, donc dans les mouvements de la jeunesse socialiste allemande, mais c'était pas d'orientation communiste, hein, c'était de la social-démocratie. Mais c'est ce qui a suscité donc la constitution d'un dossier par le FBI quand il est arrivé aux États-Unis pour nourrir des suspicions d'engagement communiste de la part d'Hirschmann. Mais Hirschmann n'a pas eu connaissance de ce dossier que le FBI avait constitué et qui lui a empêché en fait de faire carrière, enfin du moins la carrière qu'il espérait aux États-Unis puisqu'il voulait. Il voulait donc intégrer la Banque centrale américaine et il n'a pas pu parce qu'il y avait ce dossier qui le suivait, enfin qui était comme une ombre qui le suivait et qui lui a.
Donc il y a tout un itinéraire derrière sa réflexion sur quand est-ce que exit est possible, sortir d'une communauté humiliante, dominatrice, quand est-ce que voice est possible, protester, ça ne lui est pas tombé dessus par hasard. Je voudrais aussi que sur ce point, Hélène Frappa, vous nous disiez si l'objectif de QCOR, enfin si QCOR aurait été surpris que son film soit utilisé, notamment dans le langage, pas seulement pour parler des régimes autoritaires, voire totalitaires, qui était quand même le message subliminal de ce film, mais soit presque au sens littéral utilisé pour penser le couple, comme vous le faites.
Je pense pas du tout. Non, c'est-à-dire il y a une différence abyssale en fait entre en effet la pièce de théâtre que vous citez et le film anglais que oui. J'ai vu et lu. Ce sont des pièces bon qui sont le texte est très bon. Hein, il le reprend en grande partie, mais en fait ça concerne strictement la société victorienne anglaise et disons les inégalités au sein du mariage victorien. Hein, dans la société victorienne, c'est ça qui intéresse le dramaturge et puis ensuite l'adaptation. Anglaise, du film anglais. En revanche, quand QCOR arrive, et notamment en insistant énormément sur les deux personnages de femmes qui sont deux chanteuses, oui. À partir de là...
Les silences, c'est important. Hein.
Voilà, il y a une révolution qui se fait, vraiment, et qui va donner au film sa portée. Et puis il y a une deuxième chose. Alors d'abord, à la fin du film de QCOR, à la différence du film anglais, l'héroïne va s'en sortir seule. Il y a quelque chose d'absolument, je trouve, sublime, enfin très bouleversant. Et il se trouve que depuis un an, j'ai beaucoup présenté ce film dans des ciné-clubs. C'est un film qui était complètement oublié, parce que QCOR, bon, c'est un des grands cinéastes hollywoodiens, mais finalement, il était concrètement assez oublié. Ces films n'étaient plus tellement vus. Il y a eu une rétrospective très récemment à la Cinémathèque, mais ils étaient peu vus. Et c'est vrai que les spectateurs sont bouleversés à chaque fois par ce trajet d'émancipation très concrète, en fait, que ce film permet. Et moi, je dois dire que j'ai vécu, hein, grâce à l'écriture de ce livre, mais disons guidé par le mouvement même de à la fois qui montre qu'il y a un lien, et pour moi c'est très lié à ce que j'ai pu étudier il y a longtemps de la philosophie des Lumières, quelqu'un d'un philosophe comme Kant, sur le fait qu'il y a un lien entre l'élucidation et l'émancipation. Les deux ne sont pas disjoints. Hein, ose savoir, dit Kant en reprenant la devise d'Horace, mais c'est-à-dire c'est l'idée que le savoir, l'élucidation, ce qui va être le mouvement, le trajet d'enquête de cette jeune femme à qui tout le monde au début dit « ne te retourne pas vers le passé, oublie, ne réfléchis pas, ne pense pas », etc. Le fait que, précisément, le courage qu'elle va mettre à élucider, avec l'aide aussi de ses témoins, va très concrètement l'aider à s'émanciper, comme on le voit dans la dernière scène où elle va affronter une dernière fois seule son mari qui n'est même pas son mari puisqu'il est déjà marié ailleurs, il est bigame. Donc tout repose en réalité dès le départ sur une manipulation de la vérité. Le mot mariage qui est censé, je cite, qui est censé être en plus cet énoncé performatif, je vous déclare marié, même là ce n'est plus possible puisque il est marié ailleurs. Elle va l'affronter seule, alors que dans le film anglais, elle entrait avec le policier qui l'accompagnait. Et elle va, à l'aide de cette ironie, qui est une ironie très cucorienne, et alors là, on pourrait dire que c'est le côté queer de Cukor, qui est dans son dernier film, Cukor dit carrément, par la voix de Jacqueline Bisset, « L'art est fait pour les juifs et les homosexuels ». Je cite, il cite Proust, c'est un film entièrement sur la littérature, où il va, comme une sorte de testament, se réclamer de Proust, de cette figure de marginalité ironique, au fond, doublement ironique, dont il va faire son propre autoportrait. Mais il y a un côté queer, c'est l'ironie. Oui. L'ironie, c'est essentiel.
Vous pensez finalement que toute cette réflexion
cucorienne... Je crois qu'il ne croit pas à la norme traditionnelle. Il n'y croit pas, Cukor. Enfin, en tout cas, il la regarde comme metteur en scène, en spectateur, avec une grande ironie. C'est-à-dire, il n'a pas de mécanisme de croyance. Il n'y adhère pas. Et ça lui permet de... Et c'est ça qui est très, très beau dans le film et qui, pour moi, est un mouvement très humaniste de ce film. En fait... À une époque où on discute beaucoup, et je trouve que, enfin, souvent, des grands auteurs, même hollywoodiens, se tombent un peu de leur piédestal. Moi, je suis pour revoir ces films et voir qu'au contraire, la plupart d'entre eux, et Cukor est un homme, la plupart d'entre eux vont faire donner voix à leurs actrices et aux femmes.
Hein. Et que la question des femmes est dans ce film.
Elle est essentielle.
Au premier plan.
Et il y a une dimension, alors là, moi, j'insisterais, je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Pas du tout.
Non, sur la question systémique.
Je trouve ça très intéressant, oui.
Pour moi, il y a vraiment un lien. Alors, précisément, le but, pour moi, était de le démontrer, parce que sinon, le but n'était pas de dire que tous les méchants maris sont des nazis, hein, pour le dire clairement, sinon ça aurait été...
Oui, ça, pour le coup, je ne serais peut-être pas d'accord,
non,
vous
mais
voyez.
C'est précisément pas
Mais pas sur l'idée qu'on puisse déplacer un concept d'un champ à l'autre, je trouve ça, au contraire...
C'est pas du tout ce que je voulais dire.
Fécond sur les précautions.
Voilà, la question. C'est pour ça que je parlais de conceptualisation. Pour moi, tout l'enjeu, c'était d'arriver avec une certaine rigueur à démontrer qu'il y avait, dès ce film-là, une dimension systémique, c'est-à-dire que cette violence conjugale qui est analysée, démontée, et Cukor donnant sa place de metteur en scène à la fin du film à cette femme qui va pouvoir dire « je suis folle », très bien, elle reprend ce mot et elle va en faire une arme d'une ironie complètement libératrice. Qu'il y a un lien entre ça et la question que j'analyse à travers un texte d'Arène que j'avais retraduit il y a quelques décennies, Les origines du totalitarisme, sur la question de la désolation, de l'isolement, de la déshumanisation et du fait, comme le dit magnifiquement Hannah Arendt, que la voix d'un être humain, le langage d'un être humain, il commence avec autrui. Le langage en tant qu'il est adressé. Il commence tout seul. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, à l'intérieur de chaque être humain, une voix, que nous parlions avec nous-mêmes, pour que la pensée soit possible et que le dialogue soit possible. Or, le gaslighting détruit ça. Et par là même, ça détruit toute forme aussi de possibilité d'une communauté, hein, de ce qui, dans le mariage lui-même, qui semble... ne concerner que deux personnes, ou plus s'il y a des enfants, fait déjà communauté politique, en fait.
Alors, je vous propose d'écouter, pour continuer à naviguer dans plusieurs champs, où la question de faire silence, enjoindre à quelqu'un de faire silence, se pose. Je vous propose d'écouter Florence Aubenas, qui a écrit ce livre, Le quai de Ouistreham, où elle a passé du temps auprès de femmes de ménage. Elle s'exprimait sans leur dire au début qu'en fait elle était journaliste, puis finissant par le leur dire. Elle s'exprimait ici, Florence Aubenas, le 23 février 2010 sur France Culture.
Dès qu'il y a un débat social, de fait, les intérimaires, les précaires sont hors de ce débat. C'est-à-dire que c'est grosso modo toute une frange importante de la population qui n'est pas dans les grandes discussions d'aujourd'hui. Et en ce sens, c'est invisible. Et ça va de cet aspect sur le, dans le paysage français jusqu'au plus petit, quand vous êtes effectivement précaire sur un chantier ou comme ça. On vous dit, la première des choses dont on vous félicite, c'est de ne pas être vu ni entendu. Ce que je voulais, c'était partager ce quotidien avec des travailleurs précaires, les faire entendre leur voix et être au plus près du terrain. Et je crois que quand on est journaliste, c'est un peu ça qu'on cherche à chaque fois. Et c'est vrai que dès lors qu'on est dans, vous voyez, dans une grande affaire, dans un événement international, voilà, les choses sont évidentes, elles sont publiques, elles sont sur la place. Quand on veut raconter l'ordinaire, là, effectivement, il faut se mettre à marcher à rythme d'hommes et de femmes, il faut se mettre... Oui, c'est vrai, de se faire oublier, c'est vrai que c'est une dimension du journalisme, de laisser la parole aux autres, de s'effacer devant eux. Moi, c'est vrai que j'ai voulu tout faire dans ce livre, sauf parler de moi, si vous voulez. C'est vrai que très souvent, on me demande « Mais pourquoi vous ne faites pas un bouquin sur votre prise d'otage ?» etc. Parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Me mettre en scène, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, moi en particulier. Ce que je voulais, là, c'est raconter cette vie quotidienne en France par temps de crise.
Rendre visible ceux qui ne le sont pas dans nos sociétés, redonner une voix à ceux et celles auxquels on enjoint de faire silence, finalement c'est le travail du journaliste, dit Florence Aubenas, mais peut-être aussi le travail du sociologue. Alice Delpierre, sur votre propre démarche, est-ce que vous dégaslightez un certain nombre de gens qui sont quand même votre objet de recherche depuis un certain temps?
Alors oui, d'une certaine manière, en fait, les sciences sociales et notamment la sociologie, de par le choix des objets d'enquête que l'on fait, on décide de mettre la lumière sur tel ou tel phénomène. Et donc le passage à l'écriture, le passage dans les médias pour parler des individus qu'on étudie est une manière... De rendre compte de leur voix, mais pas seulement de la voix des dominés, mais aussi de la voix des dominants, notamment dans mon cas, parce que moi je pense que, en tout cas, on est plusieurs sociologues à aussi avoir une démarche d'enquête qui consiste à étudier les deux côtés aussi de la domination, à la fois ceux qui sont sujets au silence et celles et ceux qui produisent et qui imposent ce silence. Mais bon, la sociologie se résume pas à non plus rendre compte seulement de voix.
C'est sûr.
Et en cela, il y a aussi une dimension aussi très très forte en fait qu'on trouve en sociologie et plus généralement en sciences sociales de partir en fait de certains cas qui peuvent sembler extrêmes ou très particuliers. Voilà, les personnes en situation de traite, les personnes, les femmes de ménage dont parle Florence Aubenas, voilà, qui travaillent dans un secteur très particulier de l'économie, pour finalement montrer des dynamiques beaucoup plus transversales qui révèlent des dynamiques sociales en fait structurantes et très communes de la société. Et en ça, je rebondis sur ce que disait Hélène Frappa. C'est très intéressant parce que là, on pourrait se dire bon bah voilà, le silence sur le marché du travail, bon ça n'a rien à voir avec le silence dans le couple. Mais en fait, si, parce qu'en fait, cela émane de processus, comme on dit en sociologie, de domination, voire d'exploitation, selon l'école théorique dans laquelle on se place, qui repose sur des rapports sociaux qui ne sont pas anodins, qui sont des rapports sociaux de classe, on parlait tout à l'heure de la question économique, des rapports sociaux de genre, et là c'est très visible dans le cas des violences conjugales, et on pourrait ajouter de rapports sociaux de race. Alors petit point sur le mot race, hein, en sociologie on utilise le mot race à l'égal du concept de genre, c'est-à-dire qu'on parle d'une construction sociale de ce que serait une race, à partir de l'essentialisation de comportements, de défauts, de qualités d'individus qui sont en fait non blancs, hein, dans une société notamment française qui est à majorité blanche. Mais on pourrait aussi rajouter que ces rapports sociaux de domination sont indexés sur l'âge, sur le handicap, etc. etc. Et donc, de varier et de combiner en fait toutes ces variables nous permet subtilement de montrer en fait quels sont les contextes et quelles sont les conditions de la reproduction aussi et de la transversalité de ces rapports de domination. Et en fait, la famille, quand on étudie la famille et quand on étudie le couple, en fait, c'est un miroir grossissant, de façon générale, des rapports de domination structurants de la société. De même chose, quand on étudie le marché du travail, en fait, le marché du travail est aussi un miroir grossissant de tous les rapports de domination. La domination de genre dont parle Hélène Frappa dans le couple, elle se retrouve complètement sur le marché du travail. C'est-à-dire que les femmes de ménage dont parle Florence Aubenas, ce sont des femmes, en fait. Et c'est pas pour rien qu'elles font un travail de ménage, parce que le travail domestique est massivement pris en charge par les femmes, parce que historiquement, les femmes ont été assignées à ce type de tâches. Et donc, il y a une domination de genre, une assignation sexuée des femmes à ces emplois, qui sont souvent très mal payés et dévalorisés parce qu'ils sont faits par des femmes. Aussi.
Donc, pardon, il va nous falloir être bref, on est presque au bout de l'émission, mais Cyril Ferraton, vous êtes finalement intéressé par le fait qu'on puisse parler de Hirschman et de ses concepts exit, voice, loyalty, en parlant aujourd'hui de la sociologie du travail, des femmes de ménage, en parlant aussi du couple, en allant faire un lien avec le gaslighting qu'a déployé avec beaucoup de précision Hélène Frappa dans son essai. C'est fidèle à Hirschman ?
Bah, en grande partie, oui, puisque lui-même en a parlé. Alors, il n'a pas parlé de la sociologie de genre, mais il a parlé du mariage. Il a parlé, notamment pour appliquer sa grille de lecture d'Exit Voice après les réactions qu'a suscité son ouvrage. Et donc, oui, il a étendu le domaine d'application de ce couple défection prise de parole, en sachant que, oui, la dimension, par contre, genrée n'est pas... à ma connaissance, elle n'est pas abordée par Hirschman, et sa perspective est moins une perspective de classe sociale, comme c'était dit précédemment, alors, même s'il a bien conscience que les catégories sociales les plus démunies n'ont pas nécessairement... ne peuvent pas faire voice, il le souligne, d'ailleurs, mais il ne le développe pas de manière vraiment détaillée, ce point-là, et peut-être que c'est aussi un effet contextuel, puisque... les questions du genre sont quand même beaucoup plus débattues aujourd'hui qu'elles ne l'étaient au moment de la publication de Exit Voice and Loyalty.
Et je suis navrée de ne pas pouvoir prolonger notre discussion, Hélène Frappa, mais je dis à nos auditeurs qu'il y a aussi toute une partie du livre sur la question du silence concernant vraiment les femmes, notamment l'angoisse des orifices et des flux des femmes. Vous dites des choses là-dessus sur le flux de la parole des femmes est peut-être particulièrement angoissant.
Oui.
Mais je suis désolée.
Simplement
je
le fait
dire,
que la parole féminine est assignée à son corps. Toujours. Ce qui, historiquement, c'est ça la question. Ce qui n'est pas le cas. Et là, il y a vraiment une différence genrée qui est millénaire. Oui.
Hein. Donc, je ne veux surtout pas vous couper la parole, vous comprenez bien. Mais je vous propose d'écouter une chanteuse, vous allez voir, je le préciserai après, très intéressante.
Have you ever stood in the darkness of night? Screaming silently, you're a man. Have you ever hoped that a time would come when your voice could be heard in a noonday sun? Have you waited so long till your unheard song has stripped away your very soul? Well, then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men. Has a cry to live when your brain is dead made your body tremble so? And have unseen chains of too many years hurt you so bad till you can't shed tears? Have so many vows from so many mouths made you know that words are just words? Well, then believe it, my friend, that this silence can end. We'll just have to get guns and be men.
Avez-vous jamais souhaité un temps où votre voix pourrait être entendue? Voilà ce que chante Aileen Brown. Et Elaine Brown, dans ce titre The End of Silence de 1969, était une figure éminente des Black Panthers. Voilà. C'est la fin que nous propose Nicolas Berger. Je crois que c'est un excellent choix et je vous remercie tous et toutes. Et comme on dit aujourd'hui, Hélène Frappa, Alice Delpierre et Cyril Ferraton pour vos éclairages sur cette question du faire silence dans nos sociétés démocratiques ou moins démocratiques. Merci encore et voici maintenant la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de morale et de politique. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi parle-t-on d'une morale publique? Il semble particulièrement désuet aujourd'hui de parler de morale publique, de demander en quelque sorte respect des principes moraux, notamment aux dirigeantes et aux dirigeants à qui on a confié le pouvoir dans une société. Leur demander de faire l'exemple d'un comportement moral semble relever du prêche, du sermon, d'une leçon que l'on donnerait, y compris à des micros, dans des chroniques, dans une radio elle-même publique, comme si on pouvait d'ailleurs se dispenser soi-même dans nos actions de donner l'exemple d'une façon publique, quels que soient finalement nos rôles, quelles que soient nos fonctions, d'un respect de certains principes jusque dans nos actions. Pourtant, le fait pour les dirigeants politiques de donner l'exemple, de concilier dans leurs actions le respect de la loi qu'ils sont censés promulguer et faire avancer, faire progresser aussi pour l'ensemble d'une société, a toujours été considéré dans la philosophie morale et politique, aussi bien antique que moderne, aussi bien chez Platon que chez Rousseau, comme quelque chose d'absolument fondamental. La vertu des dirigeants est au moins aussi importante que la loi qu'ils sont censés faire respecter, et le lien entre la vertu et la loi est d'ailleurs au cœur de la philosophie politique en général. Le lien entre morale et politique ne passe pas seulement en effet par le respect par les sociétés abstraitement de grands principes, mais aussi par leur incarnation dans des actions concrètes, dans les mœurs d'un côté, les mœurs d'une société, les actions des êtres sociaux eux-mêmes qui sont plus ou moins haineuses ou plus ou moins pacifiques et qui donnent une sorte de climat moral dans une société, un climat impalpable que nous sentons jusque dans nos rues, jusque dans nos interactions quotidiennes d'un côté et d'autre part les mœurs des politiques eux-mêmes, une sorte d'incarnation par des comportements, par des paroles, du respect ou non des formes morales entre les uns et les unes. Et c'est pourquoi finalement ce lien entre morale et politique passe dans la philosophie classique par le lien entre la loi et la vertu des dirigeants qui font respecter la loi et la vertu des citoyens qui ajoutent finalement au respect de la loi quelque chose comme un respect mutuel entre les citoyens. Mais plus précisément encore, on peut penser que le respect par les législateurs de la morale, d'un certain nombre de principes moraux jusque dans leurs interactions concrètes, relève tout bêtement de cette fonction même qu'ils occupent et relève non pas de l'éthique générale, non pas non plus d'une sorte de vertu individuelle et abstraite, mais de ce que l'on pourrait appeler leur devoir d'État, leur devoir précis, les devoirs liés à leur fonction, ce que nous appelons la déontologie. On avait déjà montré dans une précédente chronique comment l'origine de la morale universelle tient peut-être au respect des principes singuliers. Pourquoi la déontologie d'un médecin qui lui fait respecter des principes spécifiques liés à son pouvoir singulier d'entrer dans les vies et dans les corps des autres êtres humains, le serment d'Hippocrate par exemple, qui consiste à respecter le secret médical, ces devoirs spécifiques sont l'origine de la morale. Eh bien, il y a, oui, des devoirs spécifiques. Et finalement, la responsabilité politique n'est pas seulement un principe général et abstrait, ce sont aussi des actions concrètes. Et dans tous les pays, au fond, la façon dont les hommes politiques, dont les responsables politiques agissent, parlent, se relient les uns aux autres, a une responsabilité beaucoup plus grande encore que partout ailleurs. Dans toutes les fables morales, dans toutes les fables de La Fontaine, par exemple, on voit comment les comportements des puissants ont un effet sur les comportements sociaux en général, déteignent sur nous, font la qualité de vie morale et politique d'une société.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Merci aux équipes techniques de France Bleu Héros à Montpellier qui ont permis le duplex ce matin. Cette émission a été préparée en particulier par Carla Michel ainsi que toute l'équipe d'Avec Philosophie, Philippine de Bellois, Anna Felpin, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.